Visiblement, le Burkina Faso rejette Français et Européens au profit des Russes et des Chinois. Le Premier ministre burkinabé de la transition, Albert Ouédraogo, a annoncé au Parlement intérimaire, le 4 avril déjà, que son pays allait diversifier les partenariats en matière de coopération militaire. Cette déclaration intervient dans un contexte anti-français et anti-européen au sein de la classe politique et de la population. En ce qui concerne la coopération militaire avec d'autres États, l'option est désormais de diversifier les partenariats afin d'optimiser les atouts spécifiques de chaque partenaire. En tout état de cause, ces partenariats seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sincérité, a indiqué Albert Ouédraogo. Le chef du gouvernement de transition a présenté donc une feuille de route orientée prioritairement sur la lutte contre le terrorisme et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Il a assuré que le gouvernement prendrait des mesures visant à renforcer l'efficacité de l'action militaire sur le terrain et à améliorer la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, les soldats volontaires et la population. Quelques jours avant cette communication du chef de gouvernement, des manifestants donc avaient déjà scandé dans les rues de Ouagadougou face au Lagamta Bazaka. Ils appelaient le nouveau gouvernement à en finir avec les accords avec la France pour se tourner vers la Russie. Pour des Burkinabés, les Russes et Chinois seraient les mieux placés pour combattre les organisations terroristes. Ils demandent également, donc, à la fin, des accords également, donc, coloniaux à passer avec la France dans le domaine de la défense notamment. Ces futurs partenariats seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sincérité, a expliqué le Premier ministre dans une déclaration similaire à celle faite par Choguel Kokalamaiga, le chef du gouvernement de transition malien. D'ailleurs, le Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé a organisé une conférence le 1er avril déjà à l'université Thomas Sankara. À cette occasion, donc, Abdoul Razagou Déné, coordinateur donc, du club, a déclaré que nous souhaitons que l'expérience chinoise de la lutte contre le terrorisme contribue au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et que son soutien et ses apports s'inscrivent dans le sens du besoin exprimé par les Burkinabés eux-mêmes. Ainsi, la coopération gagnant-gagnant respectera ce principe de non-ingérence dans les affaires internes des nations. Pour Weizheng Wang, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Burkina Faso, le chemin qui mène au succès est sûrement périlleux et parsemé d'obstacles, mais je reste fermement convaincu qu'avec la force collective, la persévérance et surtout la détermination de cette jeunesse engagée, le bout du tunnel n'est plus très loin. Le Premier ministre malien Choguel Kokalamaiga a rencontré les membres de l'association Tabital Poulakou. L'occasion pour lui de donner des explications sur les opérations militaires menées par les FAMA à Moura et qui se sont soldées par la neutralisation de plus de 200 terroristes. Aussi, Choguel Maiga a vivement dénoncé la campagne en cours contre le Mali, une campagne dont tout le monde connaît et la source et les commanditaires. Nous faisons face à une situation où n'ayons pas pu nous faire courber les Chines. Certains de nos partenaires ont décidé de changer de fusil d'épaule afin de discréditer l'action du gouvernement et des forces armées et de sécurité, a-t-il martelé. Devant une assistance, donc Choguel Maiga n'a pas porté de gants pour dire toute la vérité autour de l'opération des FAMA à Moura. Nous faisons face à une situation où, n'ayant pas pu nous faire couper les Chines, certains de nos partenaires ont décidé de changer de fusil d'épaule afin de discréditer l'action du gouvernement et des forces armées et de sécurité. Cela s'appuie sur des faits qui ressemblent souvent à la vérité. Depuis quelques jours, il y a une campagne contre l'armée malienne et contre le gouvernement malien, consécutivement à ce qui s'est passé à Moura. Ce qui s'est passé en réalité à Moura, eh bien aujourd'hui, l'armée dispose de gros moyens d'observation. C'est avec ces moyens que nous avons pu neutraliser les nids des terroristes qui étaient basés dans la forêt de Ouagadougou, la frontière donc mauritanienne. Le Premier ministre poursuit que dans beaucoup de zones du pays aujourd'hui ayant les moyens d'observation électronique, nous avons également les moyens d'aller surprendre les terroristes et les attaquer partout où ils se trouvent. C'est ce qui fait que beaucoup de leurs bases ont été détruites au cours des opérations menées par l'armée. La pression de l'armée est très forte et de même qu'il y a de fortes pressions sur les FAMA. Nous perdons des hommes tous les jours. À Moura, les moyens d'observation ont permis à l'armée d'observer des mouvements ennemis pendant des jours. S'y ajoutent des renseignements humains, donc on s'est rendu compte qu'il y avait un regroupement de différents mouvements terroristes sur place. Ceux qui donc, sont de la zone savent bien ce qui se passe à Moura. C'est un véritable bastion des groupes terroristes et grâce aux moyens déployés, pendant plusieurs jours, on a pu constater un regroupement de 50 personnes, de 100 personnes jusqu'à 1000 personnes. Et les mêmes moyens d'observation et de renseignement ont permis de comprendre aussi que ce regroupement des terroristes à Moura avait pour but d'arrêter et de planifier des actions futures contre l'armée. C'est ainsi que l'armée est donc intervenue et effectivement, on a dénombré environ 200 terroristes neutralisés, plus les opérations des forces spéciales qui ont continué. Ce qui nous a surpris, c'est qu'au lendemain de cette opération, nous entendons des médias internationaux et des organisations et des ONG internationales affirmer que l'armée est allée massacrer des populations civiles, essentiellement des peuls. Dans leur calcul, la meilleure façon pour le Mali de perdre la guerre contre le terrorisme, c'est d'avoir les populations contre l'armée. Or, s'il y a quelqu'un qui est conscient de cette réalité, c'est bien le président de la transition, Assimi Goïta, dont le souci est justement la protection de toute population malienne. Je suis témoin à plusieurs reprises des instructions qu'il ne cesse de donner au sujet de la protection des populations civiles lors des opérations militaires. Depuis l'opération sans précédent des FAMA, qui a fait donc des centaines de morts côté ennemi, le 27, donc au 31 mars à Moura, une localité située dans la région de Mopti, les réactions ne cessent de bondir de par le monde entier. Si les alliés du Mali se réjouissent d'une victoire importante contre le terrorisme, la France et certaines organisations de défense des droits de l'homme dénoncent quant à eux une exaction contre des civils. Devoir de justice ou simple incrimination de l'intervention russe au Mali. En tout cas, Moscou et Pékin donc, ont bloqué une demande du Conseil de sécurité de l'ONU d'avoir donc des enquêtes indépendantes sur cette opération à Moura. L'issue de l'opération était une victoire importante contre le terrorisme, selon le ministre des Affaires étrangères du Kremlin, dans la foulée d'une célébration de cette victoire à Bamako et à l'intérieur du Mali. Parallèlement à cette atmosphère ambiante, des organisations donc de défense des droits de l'homme, dont Human Rights Watch ou encore l'ONU, ont quant à eux prétendu un massacre présumé de l'armée malienne qui aurait fait plusieurs centaines de victimes civiles à Moura, notamment l'exécution sommaire de 300 civils. C'est donc sur la base de ce rapport que la France a sauté sur l'occasion pour soumettre à l'approbation du Conseil de sécurité le vendredi dernier une demande d'enquête indépendante sur le massacre présumé qui se serait livré l'armée malienne et ses alliés russes. Et donc la déclaration proposée au Conseil de sécurité soulignait la profonde préoccupation face aux allégations de violence et atteintes aux droits humains au Mali, en particulier celles qui auraient été perpétrées contre des civils à Moura, dont la région de Mopti du 27 au 31 mars, en ajoutant cette réclamation d'enquête approfondie et indépendante pour établir les faits, trouver les responsables de ces violations et exactions et les traduire en justice. Il aurait fallu à ce moment-là l'intervention donc de la Russie et de la Chine pour empêcher cette démarche orchestrée par la France. Pour Moscou et Pékin, qui se sont opposés, il serait prématuré d'engager une nouvelle enquête alors qu'une première a été ouverte par les autorités maliennes. Par ailleurs, Moscou estime que les allégations sur un massacre de civils à Moura sont une désinformation, tout comme celles faisant état de l'implication de mercenaires russes de la société privée Wagner dans l'opération. Personne n'est surpris donc de voir les FAMA être accusés de la sorte depuis quelques jours, surtout depuis que le Mali a tourné le dos à la France et est proche de la Russie et des pays du bloc de l'Est. Cette situation n'est plus digérable pour la France qui émet le vœu que la coopération russo-malienne soit aussi un échec. C'est pourquoi, après chaque moindre prouesse, on ne se prive pas de les accuser d'exactions contre les civils pour ternir leur image, non seulement aux yeux de ses voisins et surtout aux yeux du reste du monde. À un moment donc où la Russie de Vladimir Poutine défie le monde entier, et c'est aussi que des organismes tels que Human Rights Watch, couplés à certains faux experts de l'ONU, inventent des mensonges grossiers contre les forces russo-maliennes. Ce qu'ils ignorent est que la population malienne est derrière son armée, une armée républicaine dont toutes les ethnies du Mali sont représentées. Jamais et au grand jamais les femmes n'utiliseront leurs armes contre une ethnie au Mali. On sait que ces organisations donc, ne vont pas s'arrêter après l'étape de Moura. Elles sont au four et au moulin pour faire passer les soldats maliens comme des nazis. Mais elles vont échouer car le Mali est un pays multiséculaire et multiethnique de plusieurs centaines de milliers d'années d'existence. Au Mali, atrocités contre les populations civiles, massacre de ces mêmes populations civiles, destruction et ou pillage des villages, exécution sommaire de civils et militaires, enlèvements, tortures, séquestrations, ce sont là autant de crimes perpétrés durant ces dernières années contre les populations civiles maliennes. Ces crimes ont été perpétrés par des groupes armés agissant le plus souvent au nez à la barbe des différentes forces étrangères présentes au Mali, notamment la MINUSMA, dont l'une des missions est la protection des populations civiles. Ces odieux crimes qui ont occasionné des milliers de victimes civiles et militaires n'ont soulevé aucun tollé ni motivé la moindre enquête indépendante de la part de ceux qui aujourd'hui tentent absolument de discréditer l'armée malienne après son opération victorieuse à Moura contre les terroristes. Retour sur certaines tueries perpétrées contre les populations civiles maliennes. Le bilan, il est très lourd. Le 2 juillet 2019, les populations civiles du centre, précisément les villages de Bouari, Djimdo, Pangadou et Dialakanda dans le cercle de Bankas, et les militaires ont payé un lourd tribut suite à une double attaque perpétrée par des hommes donc lourdement armés. Bilan, plus d'une trentaine de civils tués. Selon certaines sources, les terroristes qui ont commis cette attaque meurtrière sont arrivés de la frontière du Burkina Faso à bord de pick-up, de motos tricycles et d'engins à deux roues dans la soirée du 1er juillet 2020. Simultanément, ils ont commis des massacres dans ces quatre villages Dogon du cercle de Bankas. Alertée, une patrouille de l'armée a été dépêchée donc sur les lieux des attaques meurtrières et cette patrouille est tombée dans une embuscade également dans la nuit du 2 juillet aux environs de 20h à l'entrée du village de Gouari. Bilan, 7 morts, 2 blessés, 3 portés disparus et 4 VHL brûlés. Ce détachement a été pris à partie à l'entrée du village de Gouari par des individus armés à bord de 3 véhicules et sur une quarantaine de motos, a écrit l'armée sur sa page Facebook. Autre lieu, en juin 2019, une patrouille de l'armée malienne a été victime d'une embuscade à Diabali. Cet acte, perpétré par des hommes armés, a fait une vingtaine de morts et de nombreux blessés du côté de l'armée ainsi que des dégâts matériels. Dans la crise sécuritaire qui secoue le Mali depuis 2011-2012, il est à noter que l'année 2019 a été particulièrement plus meurtrière pour les populations civiles maliennes ainsi que les forces armées et de sécurité. Cependant, l'on ne dispose pas d'estimations chiffrées sur le nombre exact des victimes civiles et militaires. Mais par contre, en 2018, les attaques et autres violences ont entraîné la mort de plus de 1 800 personnes au Mali, selon certains rapports dressés par des organisations humanitaires opérant au Mali. Ces mêmes organisations indiquent que l'année 2017 a enregistré un total de 716 personnes tuées et d'autres victimes, dont la plupart étaient des civils. Précision, le nombre élevé de morts en 2018 est le reflet d'une situation sécuritaire particulièrement dégradée, notamment au centre et au nord-est. Donc la question, où étaient la MINUSMA et la force Barkhane? Qu'ont fait les Nations Unies pour rechercher et punir les auteurs de ces crimes, dont les auteurs appartiennent à des groupes armés opérant sous le regard indifférent de la MINUSMA? La communauté internationale n'est-elle pas informée de ces violences sur les populations maliennes? Pourquoi la MINUSMA n'intervient-elle pas pour protéger les populations civiles avec tous les moyens, donc hélicos, drones, etc., dont elle dispose? Au-delà, quelle est l'utilité de cette armada militaire étrangère déployée au Mali depuis des années? Ce sont là autant de questions qui reviennent sans cesse sur les lèvres. Autre précision, sur les 1814 victimes de l'insécurité en 2018, 1026 ont été tuées au centre du Mali, parmi elles 697 civils, 85 membres des forces armées de sécurité du Mali, 4 soldats de la paix, 236 hommes armés ou présumés armés. Donc sous cette catégorie ont été classés, donc les membres des groupes terroristes, des milices, des chasseurs et peut-être des civils présentés comme terroristes selon des organisations humanitaires. Dans cette spirale de violence qui a frappé le Mali depuis près de 9 ans, la localité d'Ogossagou, dans la région de Mopti, a payé un lourd tribut avec deux attaques successives et d'une rare violence. Les deux attaques ont fait des centaines de victimes, des morts et des blessés, de nombreux déplacés et d'importants dégâts matériels. Cette barbarie a surtout frappé des femmes, des enfants et des vieilles personnes sans défense. La France a-t-elle demandé présent donc, des enquêtes sur ces atrocités commises à Ogossagou ? L'ONU, via la MINUSMA, est-elle intervenue pour rechercher les auteurs de ces crimes ? Pour rappel, il faut dire que le vendredi 14 février 2020, la population d'Ogossagou a été surprise par cette attaque qui a fait plus de 30 victimes et de nombreux blessés. L'attaque menée par une trentaine d'hommes armés a été perpétrée après le retrait, quelques heures auparavant, de l'armée, a expliqué le chef du village. Et dans leur furie, les assaillants ont incendié presque tout le village et ont emporté une grande quantité de stocks alimentaires et de bétail. À l'époque, le gouvernement malien avait condamné ces atrocités commises à Ogossagou et avait promis des enquêtes. Rassure que les investigations seront menées pour déterminer les circonstances de ces crimes, arrêter et traduire les auteurs devant les juridictions compétentes. Cependant, jusqu'ici, les populations d'Ogossagou attendent et continuent de souffrir en silence. Pour sa part, la MINUSMA s'était contentée d'un communiqué laconique à propos de ces tueries d'Ogossagou. L'attaque a coûté la vie à de nombreux villageois et a fait plusieurs blessés. Des maisons ont également été brûlées, avait confirmé la mission onusienne présente au Mali. Et c'est tout. Avant cette attaque, Ogossagou avait subi en mars 2019 un premier assaut meurtrier des groupes terroristes. Bilan, plus de 174 morts et autant de blessés. Aussi, de nombreuses pertes matérielles ont été enregistrées, cases brûlées, greniers détruits, enclos de bétail détruits. À l'époque, cette paisible localité Peul avait été investie tôt le matin du 23 mars 2019 par des assaillants armés jusqu'aux dents. Ils ont tiré sur tout ce qui bougeait. Ainsi, parmi les victimes, l'on dénombre de nombreuses femmes et des enfants. Un grand imam de la localité, du nom de Baba Sekou Issa, a été tué avec toute sa famille. Cette atrocité a également fait plusieurs dizaines de blessés, dont certains ont été évacués vers Bankas et Dialassagou. Cette attaque a également visé un camp du DDR où étaient regroupés des éléments de la milice de Sekou Boli. Ceux-ci y étaient cantonnés en vue de leur insertion dans l'armée. Dans ce cycle infernal d'attaques et de tueries contre les populations civiles maliennes, l'on note également les événements douloureux survenus le lundi 17 juin 2019 dans les deux petites localités de Gangafani 2 et de Yoro dans la région de Mopti. Bilan de deux attaques perpétrées par des hommes armés, 41 morts et de nombreux blessés. Selon des témoignages, la première attaque a visé le village de Gangafani 2 et les assaillants ont d'abord procédé à des tirs de sommation avant de procéder à l'arrestation des jeunes du groupe d'autodéfense du village. Au terme de cette attaque, 17 jeunes du village ont été arrêtés et froidement exécutés par les assaillants, selon de nombreux témoignages. Ensuite, les assaillants ont attaqué le village de Yoro. Là, une vingtaine de personnes ont été tuées, selon des témoignages. Par ailleurs, la localité de Sodanda, tout comme Ogossagou, a connu des atrocités d'une rare violence commise par une meute de terroristes qui s'attaquent à des populations civiles. En effet, Sodanda a connu son mardi noir le 11 juin 2019. Le bilan est particulièrement lourd selon les estimations et en effet plus de 100 civils dont des femmes et des enfants ont perdu la vie à Sodanda. Où étaient les forces françaises pour protéger ces innocents et la MINUSMA ? La question demeure toujours. À l'époque, les autorités locales de la région de Mopti avaient donné tous les détails sur ces crimes perpétrés à Sodanda. Avec les éléments de la protection civile, nous avons minutieusement fouillé et nous avons sorti 35 corps, avait précisé le gouverneur de Mopti. Et il avait indiqué que 11 adultes et 24 enfants ont été inhumés après le passage des assaillants. Pour sa part, le maire de Sanga, donc Ali Dolo, avait maintenu l'estimation d'une centaine de morts et il avait précisé que certains corps ont été calcinés. L'une des tragédies enregistrées dans la zone de Mopti était sans doute celle de Dungura. En effet, dans l'après-midi du lundi 18 mars 2013, des forains circulant sur l'axe Dioura-Léré ont été interceptés vers la plaine dite de Gania par des bandits armés enturbanés. Et ces bandits armés étaient à bord, donc de deux véhicules. Et selon des témoins, les forains furent dépouillés de tous leurs biens, puis attachés les yeux bandés, puis conduits à une dizaine de kilomètres du village. Là, ils ont été froidement abattus, bilan 25 civils tués, puis jetés au fond d'un puits. Dans cette barbarie perpétrée au Mali depuis des années, il y a eu donc plus de crimes de masse et certains assassinats ciblés qui ont provoqué l'émoi au sein des populations. L'on peut retenir entre autres le cas de Boubou Thiello Tamboura, donc accusé d'excès de loyauté. Ce vieil homme a été froidement abattu dans sa concession devant ses femmes et ses enfants à Sarekouye, donc le 4 mars 2015. Et il y a aussi les assassinats du chef du poste forestier de Diafarabé, donc dans le cercle de Ténénkou, criblé de balles sur son lieu de travail le 6 avril 2015. Du chef du village de Dogo, donc Amadou Issa Modi Diko, assommé pour refus de se soumettre au diktat des terroristes le 22 avril 2015. 31 décembre 2015, Souleymane Ba, dit Kouragal, a été assassiné entre Nampala et Diora. En avril donc 2016, un homme âgé, Nabé Tamboura, était froidement abattu à son domicile à Samina. Le samedi 27 août 2016, quatre personnes ont perdu la vie à Falada, à 20 km de Diora. C'est dire que le Mali et les populations maliennes ont souffert le martyre et enregistré des crimes odieux pendant presque une décennie. Et des crimes donc ont été commis souvent par des gens connus et qui bénéficient de protections extérieures. À ces crimes évoqués si haut, l'on peut y ajouter une longue chaîne d'actes barbares commis sur les populations civiles, les administrateurs locaux et les éléments des forces armées et de sécurité. Et dans cette série noire, on a encore une mémoire. Donc, les événements survenus à Kidal en mai 2014, là, ce sont plusieurs administrateurs civils et militaires maliens qui ont été sauvagement exécutés par des éléments des mouvements armés agissant devant les forces onusiennes et françaises présentes dans cette localité. Des enquêtes ont été demandées par l'ONU. Et quant aux commanditaires de ces tueries, eh bien, ils sont libres comme le vent.
En raison des restrictions de l'espace aérien à Bamako, capitale du Mali, un vol en provenance de Londres n'a pas pu atteindre ce week-end Accra, la ville qui accueille des sommets de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pendant les sanctions contre le pays. L'information provient de la Ghana Civil Aviation Authority et de la Ghana Airport Company, qui ont publié samedi un communiqué de presse conjoint sur la situation. British Airways a signalé que son vol BA081 n'a pas pu atterrir à Accra le vendredi 8 avril 2022 en raison des restrictions de l'espace aérien à Bamako, au Mali. Par conséquent, le vol a dû retourner à Londres, indique le communiqué de presse. Selon les informations, l'avion n'avait pas suffisamment de kérosène dans ses réservoirs pour pouvoir contourner le territoire malien et poursuivre sur Accra. Il aurait donc fait demi-tour au sud de l'Algérie pour regagner Londres après une escale de ravitaillement à Malaga en Espagne. En effet, Bamako a annoncé en janvier dernier la fermeture de ses frontières avec ses voisins de la CEDEAO en réaction à sa mise sous embargo par les dirigeants ouest-africains. Le président nigérien Mohamed Bazoum a annoncé dimanche qu'une trentaine de hauts cadres de l'administration publique nigérienne ont été arrêtés et sont gardés en prison pour des faits de malversation ou détournement. Bazoum a fait cette annonce dans un message posté sur son compte Twitter. Une trentaine de hauts cadres de l'État coupables de malversation ou de détournement croupissent actuellement en prison et y resteront longtemps, a-t-il indiqué. Le président nigérien n'a toutefois donné aucune explication sur l'identité des fonctionnaires concernés et les dossiers concernés par les malversations ou le détournement. Arrivé au pouvoir le 2 avril 2021, Mohamed Bazoum avait promis de mener une lutte implacable contre la corruption et les autres infractions assimilées. « Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a procédé vendredi 8 avril 2022 à l'inauguration du centre hospitalier régional d'Adzopé, chef-lieu de la région de Lamé. Avec une capacité de près de 200 lits, dont 150 d'hospitalisation, et près de 14 500 m² de bâtiments, cette infrastructure sanitaire a bénéficié d'équipements médicaux de dernière génération, notamment dans les services d'imagerie médicale, d'analyse et de laboratoire, et au sein des blocs opératoires. Le chef du gouvernement a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour sa politique de développement économique et social. Selon lui, cette infrastructure sera définitivement et à jamais une pierre angulaire d'un développement régional puissant parce qu'il ne peut y avoir de prospérité économique sans système sanitaire solide et performant. Kenya Airways et South African Airways annoncent des avancées sur leur projet de compagnie panafricaine. Le plan de création d'un transporteur panafricain initié par Kenya Airways et South African Airways se poursuit. Kenya Airways et South African Airways ont annoncé une campagne de mobilisation des bailleurs autour de leur projet de création d'une compagnie aérienne panafricaine en 2023. Les démarches auprès des investisseurs se déroulent en Afrique, à Londres et aux États-Unis. Ce projet est par ailleurs une opportunité de relance des activités pour les deux compagnies qui font partie des leaders de l'industrie aérienne africaine, mais qui sont actuellement confrontées à certains défis, notamment financiers.